présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. faut pour que les gens puissent, pour que certaines personnes avec quelques catégories de la société puissent continuer à faire des bénéfices et à ne pas être au chômage, il faut que les autres personnes continuent à manger, boire et fumer. Il faut continuer à avoir des cancéreux, des alcooliques et des obèses. L'Europe élargit une catastrophe. Certains États, avant d'entrer dans l'Europe, pour se faire de l'argent, plantent des plants de vigne parce qu'ils savent qu'on va les aider à, pour les déplanter et recevront des subventions de l'Europe. Les pays qui rentrent dans l'Europe ne pensent qu'aux avantages qu'ils auront. Les États d'Europe ne servent qu'à une seule chose, à la mafia et aux industriels. Le truc de la monnaie unique n'a été accepté par les Français que grâce à une comédie de Mitterrand qui a joué les mourants pendant le débat qui avait lieu sur ce sujet. Mitterrand est l'homme qui a le plus nuit à la France. Et pourtant, c'est un socialiste. Un pays qui a deux politiques ne peut pas être gouverné. C'est ce qui se passe en France. Les régions auront une politique de gauche et le gouvernement de droite. Ce qui fait que ni l'un ni l'autre ne pourra avoir sa politique. Et puis, pourquoi les régions? On avait les départements, cela suffisait. Mais non, peut-être pas pour les politiques qui cherchent à avoir des places. La France n'est plus un pays souverain. C'est un simple pays, un simple État européen. Un simple État européen, il n'y a pas de quoi s'en réjouir. C'est pas marrant d'être jeune. Il faut faire attention à des tas de choses. Être habillé comme les autres, bien suivre leur mode, faire comme les amis, ce qu'ils aiment, avoir une copine, même une bécasse, aimer la musique. Mais surtout les chansons du jour, mais attention que celles que ses potes aiment. Parler leur langage, bête et débile. Avoir les mêmes idées politiques. Être de gauche, vert, tout en dégueulassant la ville, en jetant n'importe où ses canettes et ses paquets McDo. En mettant des affiches, ces graffitis n'importe où. Être contre tout, surtout ne pas aimer les vieux, ce sont des cons. Être vieux, c'est avoir plus de 5 ans que soi. Et ce sont des vieux cons. Se sentir le centre du monde est plus fort que les autres. Surtout, avoir toujours raison. En résumé, le jeune n'est pas libre. Il est dirigé par la mode. Non, il est prisonnier de la mode. Voici un sujet que j'aimerais utiliser, qui me semble très intéressant, mais assez difficile. Et puis, serait-il compris comme un sujet de fiction? et que ces idées sont des idées d'un personnage. Mais ce serait tout de même intéressant à faire. J'aimerais bien pouvoir le faire. Voilà ce que penserait le personnage. Depuis 1974, nous sommes en guerre. Oui, vraiment en guerre. Mais une guerre non déclarée et terroriste. Une guerre de l'âge terrible. Il vaudrait mieux, c'est une vraie guerre classique, avec déclaration et armée. Là, au moins, nous connaîtrions nos ennemis et les verrions. Ici, l'ennemi est de partout. S'est infiltré de partout et a mis à sa cause des gens de chez nous. En guerre normale, l'on dirait qu'ils sont des collaborateurs. Là non, ils sont des idéologues qui ont pris la cause des autres. Le monde occidental et surtout la France sont déjà défaits, perdus. Parce que l'ennemi s'est infiltré de partout. Et avec la bénédiction des droits de l'homme. Le terrorisme ne peut défendre une bonne cause lorsqu'il se comporte comme un criminel de grande échelle. Pour détruire les groupes extrémiste, il faut s'infiltrer dans leur groupe en faisant croire d'être des leurs et diviser les gens les uns contre les autres, en jouant sur leur orgueil. Chaque fois qu'un groupe s'éclate, en plusieurs groupes, mettre des gens dans chaque groupe pour les détruire, etc. Il faut que ce soit le groupe qui s'auto-détruisent et exécutent leur chef eux-mêmes. Pour cela, il faut créer la zizanie par l'orgueil. Eux font la même chose. Ils nous détruisent par l'intérieur en s'infiltrant et créant la zizanie chez nous, en faisant en sorte que de notre défense, en faisant en sorte que des nôtres défendent leur cause en brandissant les droits de l'homme. La bonté peut en temps de guerre être plus dangereuse que le mal, et ils le savent. Notre principale faiblesse, c'est d'avoir mal utilisé les droits de l'homme. Je suis humaniste, et pour les droits de l'homme, mais lucide. On ne peut pas défendre ce qui est indéfendable. Et l'on doit partager et protéger son prochain de la destruction. Je ne suis pas pour les terroristes. Je suis pour les droits de l'homme, de tous les hommes, donc aussi des Français. Et je suis bien entendu contre tout terroriste. Je le dis encore une fois, même idéologique. Je suis et je veux être un homme libre dans mes idées, si ce n'est de mon corps qui, bien malgré moi, se dégrade. Mort, c'est la fin. Et c'est là qu'on en est rejeté à cause du vide qu'on laisse. Pour moi, parce que je ne suis rien et un rien vide, ça ne peut être regretté. Si je ne peux créer, je meurs. Thank you. Voilà, j'ai fini. J'ai fini de vous dire, parler toutes mes idées et ce que j'ai fait durant ces derniers mois. Pardonnez tout ce blabla, mais à qui j'aurais pu dire tout ça, si ce n'est qu'à vous, public. Vous êtes mes seuls amis. Place à la fiction, à l'histoire. Bien entendu, les idées de mes personnages ne sont pas les mêmes que les miennes. C'est souvent, c'est le contraire. Mais il faut bien se dire que dans toute bonne histoire, il faut des bons et des méchants. sombre. Seule lampe de chevet qui est sur une commode éclaire une partie du mur. Elle n'éclaire pas assez les visages des deux jeunes personnes qui sont l'un près de l'autre et il est difficile de les décrire. Une femme est assise sur une chaise Louis XV qui est contre le mur. Elle a une robe noire, mince, les cheveux blonds courts. À genoux, penché contre elle, un homme, costume sombre, mince, blond, cheveux courts, petite moustache fine et des lunettes de métal. Il lui parle très bas. « Ne pleure pas, Odile. Nous allons quitter tout ça et recommencerons une autre vie. » Elle lui dit nerveusement, « Il ne laissera pas partir. Il ne pourra pas faire autrement. Demain, je le lui dirai et nous partirons. » Il l'embrasse sur le front et lui dit, « Plus personne ne te fera du mal. Tu vas guérir et nous serons heureux. »
« Tu le crois ?»«
Oui. » Elle lui dit,
« J'y penserai toujours. »
Il lui dit, « Nous irons voir un médecin et tu guériras. »
« Tu ferais mieux, c'est de me laisser. » « Je ne peux pas. »
« Je ne te laisserai jamais. » Il l'embrasse sur le front. Il faut nous préparer. Et nous allons partir demain matin.
Je ne peux pas. J'en ai pas la force. J'ai l'impression d'être prise comme dans un étau. Peut-être vaut-il mieux que nous restions.
Il lui dit, non, c'est impossible après ce que tu m'as dit. Elle lui dit, effarouchée,
tu ne le répéteras pas, dit.
Non, ce sera un secret entre nous. Allons, il faut que demain nous partions.
Mais
il faut que tu guérisses. Tu ne peux pas guérir, rester comme ça.
Elle lui demande, qu'allons-nous devenir? Les papiers?
Je les prendrai.
J'ai peur.
Il se redresse, se penche. Aie confiance en moi. Viens. Viens. Va te coucher. Il l'aide à se relever. La maintient. Elle semble très maigre. Il lui dit, en arrivant vers la porte, « Je sors un moment et reviendrai. J'ai une chose à faire avant mon départ. » Ouvre la porte et sort de la pièce. Dans le couloir qui est sombre, il ouvre une autre porte. Et lui dit, couche-toi,
tu es bien bon de faire ça pour moi.
Je veux que tu guérisses, je t'aime.
Moi aussi.
C'est pour ça qu'il nous faut partir. Il l'embrasse sur le front. Et la quitte. Sort de l'appartement. Et il quitte son immeuble. C'est un vieil immeuble bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Dehors, il fait nuit noire. La rue est seulement éclairée que par un lampadaire. Peu de bruit. Un peu plus loin se trouve un vieil hôtel particulier avec sur le devant un portail en ogive qui ferme la propriété. À côté du portail se trouve une petite porte qui est une entrée piétonne, si l'on veut dire. Elle est à droite du portail. Sur le côté du portail, il y a un écran. L'homme prend sa carte et la met sur l'écran. Le portail s'est ouvert. Il entre. Il se trouve dans une cour. Au fond, il y a la propriété. En passant devant la fenêtre de la maison du garde, la lumière s'allume. La fenêtre s'est ouverte. Il apparaît un homme en pyjama bleu, visage ridé, cheveux blancs.
Monsieur.
L'homme se retourne.
Monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?
L'homme va à lui. Et lui dit :
Tu ne m'as pas vu. Mais, monsieur, je ne peux pas.
Si, maintenant. Autrement, je dis tout.
Qu'allez-vous faire ?
Rien. Recouchez-vous.
Mais si vous vous faites prendre, je suis perdu moi aussi.
Aucun risque. Bonne nuit. Et l'homme ferme la porte, ferme la fenêtre. L'homme va vers la maison. L'on y voit à peine. La cour pavée n'est pas éclairée. Il fait attention pour ne pas faire trop de bruit. Monte le perron. La maison est silencieuse. Tourne le perron et va à droite pour entrer par une porte latérale, une porte de bois.
Il a la clé. Ouvre la porte. Et il est entré.
Il a fait en sorte à ce que la porte ne fasse pas de bruit en se refermant. N'éclaire pas. Petite allée d'entrée carrelée où il y a des escaliers de pierre qui doivent être des escaliers de service. Il semble connaître la maison. Prends les escaliers et monte jusqu'au premier.
Arrivé au premier, il y a un petit couloir avec une porte. Ouvre la porte. Et je trouve dans le couloir du premier étage qui donne aux pièces. Tout le long du couloir, il y a un côté des fenêtres qui laissent un peu de clarté. Et sur le couloir, en faisant très attention à ne pas faire de bruit, malgré qu'il soit décidé et sûr de lui, son corps bat très fort. Pas vraiment de peur, mais de se faire prendre. Oui, de se faire prendre. De rater ce qu'il a décidé de faire. Pas le moindre bruit dans la maison. Elle semble vide. Il va vers une porte. Elle est ouverte et entre. C'est une pièce meublée en bureau. Il n'éclaire pas. Va vers la fenêtre. Ferme les doubles rideaux. Va vers le bureau et éclaire la lampe du bureau. La table est vide, à part un sous-main et un ordinateur et un téléphone. Pas de documents. Tremblant, il regarde les tiroirs. Prend de sa poche un trousseau de clés. Il essaye les clés pour ouvrir un tiroir. Le tiroir s'ouvre. Se penche pour mieux voir. Il y a des pochettes en carton. Les met sur la table du bureau. Les ouvre. Les feuillettes, soupire, les remet dans le tiroir. Referme à clé. Ouvre un autre tiroir. Voit dans le tiroir une boîte en métal noir. Elle n'est pas très grande, 15 cm sur 15 cm. Plate. La boîte est fermée avec une serrure à code. L'homme réfléchit un moment. La garde. Dans la main. Puis, referme le tiroir. Éteint la lumière et se dirige vers la sortie de la pièce. Malheureusement, dans le noir, il cogne une chaise qui tombe à terre. Oh, merde! Une porte s'ouvre. Il y a quelqu'un! Vite! Il va vers la sortie. Le couloir est vide. Il court vers les escaliers. Entend derrière lui une porte qui s'est ouverte. La lumière. Vite, il descend les escaliers. Des pas derrière lui. Une autre porte qui s'ouvre. Une voix dit,
non, laisse, tout est prévu.
Bien, monsieur. L'homme en sueur sort de la maison. En courant dans la cour pour aller au portail, il retourne une seconde et voit qu'une fenêtre du premier, il y a de la lumière et une silhouette d'homme. Il a ouvert le portail, il se trouve dans la rue. Il court jusqu'à son immeuble. Arrivé dans son allée, essoufflé, il regarde sa main, elle est vide. La petite boîte, il a dû la faire tomber en courant, ou à moins qu'il l'ait remise sans faire attention dans le tiroir. Il se dit qu'il a fait tout ça pour rien et risquer la vie de sa femme. Entre dans l'ascenseur. Fatigué, épuisé, il appuie sur le bouton. Dans l'ascenseur, il y a une glace au fond qui lui fait face et se voit. C'est un homme dans les 30 ans, grand, mince, blond, cheveux courts, petite moustache fine, blonde, lunettes métal. Il est d'une grande élégance. L'ascenseur est arrivé à l'étage. Souffle un peu et sort de l'ascenseur. Ouvre la porte de son appartement. C'est un bel appartement meublé Louis XV. Vite, sans se déshabiller, il va ouvrir la porte de la chambre de sa femme. Elle est déjà au lit. Va vers le lit. Éclaire la lampe de chevet qui est sur la table de nuit. Elle sursaute. Il lui fait « Chut ! Que se passe-t-il ? Nous sommes en danger. Il nous faut partir. » Apeuré lui demande « Que se passe-t-il ? Il nous faut partir de suite. De suite ? Oui. Il risque de venir d'un moment à l'autre. J'ai fait une bêtise. » Elle lui demande inquiète. « Qu'as-tu que fait ? Ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas de temps. Lève-toi et nous partons. » «
Comme ça ?
Oui. Nous n'avons pas le temps de prendre quoi que ce soit. À part les valises que tu as déjà préparées. Je t'en supplie. Fais vite. »
Elle lui demande. « Et le petit ?»
Il lui crie excité. « Mais c'est pour le petit que je te dis de faire ça, de faire vite. Autrement, nous ne le verrons plus. » Il se baisse.
Allons, lève-toi. Le temps presse. Il risque de venir d'une minute à l'autre.
Te soulève. Soulève la couverture et les draps. Elle est en chemise de nuit, de soie blanche, terrifiée par son visage et son autorité. Elle se lève d'un bond. Il lui crie, habille-toi. Et fais vite, je t'en supplie, habille-toi en vitesse. Elle se met à pleurer. Les mains contre ce visage, elle a peur. Furieux, il la secoue. Fais vite, je te dis. Fais vite, je t'en supplie. Il ouvre l'armoire à deux battants, ouvre le côté penderie. En sort une robe simple noire, la lugette. Mets-la vite. Terrifiée, elle quitte sa chemise de nuit et met la robe. Il lui tend des mocassins noirs. Tiens. Elle les met en vitesse. Il la prend par la main et se laisse guider. Et une pensée terrible lui vient à l'esprit. Dit, oui, le petit. Ils sortent de la chambre. Ils vont vers la sortie de l'appartement. Dans le couloir, il y a deux sacs de voyage. Il les prend d'une main et tient sa femme. Et sort de l'appartement. Prennent l'ascenseur. Arrivé dans le hall de l'immeuble, il va ouvrir la porte de l'allée en faisant bien attention. Attends-moi, je vais voir s'il n'y a pas un danger. Il regarde dans la rue. Elle est déserte. Vient prendre sa femme. Vont vers leur voiture qui est garée près de leur immeuble. Ils ont mis les bagages sur le siège arrière. Les voitures filent dans les rues désertes et mal éclairées de Paris. La voiture est une Ferrari de tourisme rouge. Tout en conduisant, il lui dit « Pardonne-moi, ma chérie, mais il le fallait. Si tu avais fait une crise, nous aurions été perdus. » Sa femme est aussi grande que lui, plus jeune, 22 ans. Grande, mince, blonde, le visage rond. Elle pourrait être jeune si elle n'était pas si crispée. Elle lui dit, le petit. Il lui dit, nous allons aller le chercher. Elle lui donne un baiser sur la joue. Il se met à rire et lui dit, je suis bête. Il ne peut rien contre nous.
S'il me dénonce, je le dénonce.
Elle lui dit,
ce serait terrible, il y aurait un procès.
Il lui dit, c'est pour éviter le procès que je pars. Détends-toi, tout va bien aller maintenant.
Il lui demande, qu'allons-nous devenir?
Nous allons partir, tous les trois, en Amérique, vivre une nouvelle vie.
Les Américains vont nous accueillir les bras ouverts.
Pour moi, la France, c'est fini. Même si nous ne sommes pas pris, je ne pourrai jamais faire carrière.
Elle lui demande, mais qu'as-tu fait?
Il lui dit, une bêtise, stupide. J'ai voulu me venger au lieu de penser à l'avenir.
Il faut tout oublier
et partir à zéro.
Oui, partir à zéro.
La voiture file, file. Ils se détendent, se détendent. Quitte Paris, qui semble une ville morte. Ils sont épuisés tous les deux. Prends l'autoroute pour aller à Genève. Pas de circulation.
La voiture se met à tanguer, aller en tous les sens.
Il panique et lui dit,
j'arrive plus à la diriger, les commandes ne répondent plus.
Elle le regarde apeuré. Lui essaye de redresser la voiture.
Elle file, elle va dans tous les sens.
Il a très peur, les freins non plus ne répondent pas.
Oui, les freins non plus ne répondent pas.
Heureusement que la route est une ligne droite, sans voiture, mais la voiture va dans tous les sens.
Il a chaud, très chaud.
Il a peur.
Il a très peur. Il est crispé au volant.
La voiture a viré à droite et a cogné une barre de protection si fortement qu'elle s'est soulevée et s'est reposée plus loin dans le fossé. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Junier Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.